Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du SA15 Mag Attitude. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes environ pour parler du SA15, seulement du SA15 et rien que du SA15. Comme d'habitude, hein, avec moi, comme vous en avez l'habitude, mes deux acolytes, Christian et Loïc, bonsoir.
Salut tout le monde, comment vous allez là en ce début de semaine ?
Eh ben écoute, moi ça va. Et toi Christian, comment vas-tu ?
Impeccable, impeccable. Après un petit week-end d'absence, je reviens plus en forme que jamais pour vous compter la victoire du SA15.
Pour être très transparent, hein, tu suis un petit joueur hein, qui a donné des sueurs froides à Djokovic et tu souhaitais absolument voir ce match qui a été ah oui. Assez exceptionnel et qui a été même qui sera peut-être même déterminant dans la carrière du joueur hein, dont tu peux donner le nom hein, si tu veux, Christian.
C'est un jeune croate de 18 ans, Dino Prismic, qui a gagné Roland Garros Junior l'an dernier, qui s'est qualifié pour l'Open Australie et qui au premier tour a eu la chance ou la malchance de tirer Novak Djokovic, sachant que c'est son idole, donc ouais. C'était un beau match, un beau souvenir, défaite en 4 heures en 4-7, c'est le joueur d'ailleurs qui a tenu pour l'instant Djokovic le plus longtemps sur le tour, sur les 4 matchs que Djoko a fait, donc voilà, une belle performance.
C'est vrai, tout à fait. Puis on peut dire que tu as le nez fin, parce que ça fait un petit moment maintenant que tu suis ce joueur et que tu nous parles régulièrement de ce joueur. Et que tu nous dis, il fera quelque chose. C'est le cas. Très bien. Eh bien, écoutez, si vous voulez bien, on peut lancer le sommaire de l'émission.
Le SA15 Mag Attitude, le sommaire.
Et oui, au sommaire, ce soir, nous allons revenir sur la victoire du SA15. Après deux défaites à l'extérieur, le SA15 s'est imposé. On va voir que ça a été assez compliqué. On va en parler dans quelques instants. Suivra ensuite le résultat des jeunes. Je dis bien le résultat, car il n'y avait que les espoirs qui jouaient ce week-end. Ça, c'est pas très bien passé. Mais bon, on en a un petit peu l'habitude depuis le début de saison. Et en fin d'émission, bien, on va tout de suite parler en fin d'émission, bien sûr, nous parlerons du prochain match du SA15 qui aura lieu à l'extérieur. Ce sera à Montauban, un match important. On en parlera dans quelques instants parce que, on le verra au classement, le SA15, malgré sa victoire, est pas très très bien placé. Bon, ils reviennent à égalité avec deux équipes, mais bon, ça reste compliqué. On va lancer tout de suite le débrief du match.
Le SA15 Mag Attitude, le débrief du match.
Christian, un débrief de match heureux aujourd'hui puisque le SA15 s'est imposé face à Colomiers dans un match qui s'annonçait compliqué. Colomiers avait perdu à domicile, il se devait de réagir, il était venu avec l'artillerie lourde et ça s'est plutôt bien passé pour le SA15 en ce début de match.
Le SA15 qui est resté sur deux défaites à l'extérieur sur ce début d'année 2024 hein, du côté de Vannes et Aurillac, mais le SA15 avait remporté ces deux derniers matchs de l'année 2023 à Chanzy, et donc forcément c'était l'occasion de faire la passe 2-3 à domicile. Le match commence idéalement pour le SA15 qui marque le premier essai dès le premier quart d'heure du match hein. C'est Texier qui marque le premier essai du match avec suite à un long travail des avants, 5-0 pour le SA15, un essai transformé par Adrien Beau, le SA15 qui au quart d'heure de jeu mène 7-0. Colomiers réduit l'écart par une pénalité de Maxime Javot, 7-3 à la 26e minute. Et Glénat lui répond dans la foulée, et 2 minutes plus tard à la 28e, une pénalité. Donc 10-3 pour le SA15, 33e minute, essai pour Colomiers, essai de Hugo Djei, transformé par Maxime Javot. Colomiers qui revient à égalité au score 10 partout, on joue la 34e minute, et Colomiers concède une pénalité avec le SA15 qui marque 3 points de plus grâce à Glénat. Mais finalement, c'est Colomiers qui égalise juste avant la mi-temps grâce à une pénalité de Maxime Javot. Et le score à la mi-temps est de 13 partout.
Loïc, après un très très bon départ hein, du SA15, notamment un essai, le SA15 a eu du mal en cette fin de première mi-temps. 13 partout à la mi-temps. Malgré un bon début, on est quand même inquiet hein, pour cette seconde période parce que Colomiers est dans le match.
Ouais, Colomiers en fait est dans le match et puis défensivement c'est pas trop ça. Il y a quand même pas mal de fautes, pas mal de passages, de trous pour les joueurs columérins pour essayer d'aller à dame. Ça s'est passé une fois juste 10 minutes avant la mi-temps et c'est vrai que cette fin de première période était très compliqué et il tardait la mi-temps à tout le monde pour souffler un coup et repartir dans cette seconde période en grande forme.
Et on va voir qu'en seconde période, ça a été compliqué pour le SA15. Et bon, heureusement, en fin de période, ça s'est très bien passé. Christian, un début de seconde période compliqué.
Oui, pas de points inscrits jusqu'à l'heure de jeu à la 61e minute avec une nouvelle pénalité de Maxime Javot qui donne 3 points d'avance à Colomiers, surtout qui permet à Colomiers de mener pour la première fois dans le match. Donc 16-13 pour Colomiers. Donc il reste 20 minutes de jeu et le SA15 est dos au mur. Et c'est finalement en fin de rencontre, à 4 minutes de la fin, à la 76e minute, que Nicolas Martins inscrit l'essai, tant attendu hein, par Touchanzy, 18-16 pour le SA15, transformé par Corentin Glénat. Victoire du SA15 en fin de rencontre, victoire du SA15 20-16 face à Colomiers.
Tout à fait, Loïc, une fin de rencontre idéale, hein, bien sûr, puisqu'il y a la victoire, c'était bien ce qui était attendu, mais que ce fut dur hein, face à une belle équipe, hein, Colomiérine. Que peut-on dire finalement de ce match? Est-ce que Colomiers était très fort et puis le SA15 a dû s'employer pour battre une belle équipe, ou est-ce que le SA15 était encore limité et Colomiers a bien failli réussir l'exploit de s'imposer à Chanzy?
J'ai envie de dire une fin de rencontre comme on a l'habitude à Chanzy, notamment l'année dernière plusieurs fois, où c'est la victoire se joue dans les dernières minutes, dans les dernières secondes. Donc on a un peu l'habitude ici, ils aiment jouer avec notre stress, les joueurs là-dessus. Cette équipe de Colomiers, elle était venue pour gagner, on le savait. Elle avait perdu, il me semble, à domicile le week-end dernier face à Béziers. Donc elle était un peu revancharde, et si elle devait gagner pour rester collée à ce top 6, donc elle a tout fait pour. Malheureusement, pour eux, ça n'a pas marché. Heureusement pour nous. Et je vais quand même signaler quelque chose sur ce match-là, parce que je me rappelle d'une phrase de Alexandre Ruiz il y a quelques semaines. Alors cette fois-ci, ça a marché, mais ça ne marchera pas tout le temps. Alexandre Ruiz a dit qu'il y avait des journalistes qui lui avaient dit que il tapait souvent en touche pendant le match pour essayer de marquer des essais, notamment en première période, que prendre les points. Et ça a été le cas notamment sur ce premier essai. Alors ça a marché cette fois-ci, mais ça ne marchera pas tout le temps. Des fois, quand on est en début de match, il vaut mieux prendre des points, 3 points, que essayer de marquer un essai et ne rien avoir, parce que cet essai, ça a été quand même laborieux pour le marquer. On a mis quand même pas mal de temps, alors qu'on aurait pu marquer 3 points et repartir à l'attaque après. Et en fin de match, pareil, on marque à la 76e, mais ça faisait quand même 6-7 minutes qu'on était comme ça devant la ligne, alors qu'on aurait pu prendre 3 points et essayer de revenir à la charge après, parce qu'on sentait que les Colomiérains fatigués dans ces 10 dernières minutes. Donc c'est juste mon petite opinion là-dessus, où Alexandre Ruiz disait qu'ils allaient travailler ça pour essayer de prendre les points. Vendredi soir, ils l'ont pas fait. Ça a marché pour eux, mais attention, ça ne marchera pas à tous les coups, surtout qu'il y a des matchs très importants pour le maintien qui arrivent face à des concurrents directs. Donc cette fois-ci, il faudra prendre les points et il faudra pas s'amuser à prendre le risque à marquer 5 points.
Ouais, on va écouter justement tout de suite la conférence de presse où on va retrouver Alexandre Ruiz, on va retrouver Omar Odejvili et on va également retrouver Alexis Levroux.
C'est en prendre 4, c'est renouer avec la victoire, c'est assurer une troisième victoire consécutive à Chanzy, c'était hyper important pour la tête. Et surtout quand je viens de voir les résultats des autres équipes, je me dis que c'est important qu'on gagne ce soir. Le contrat est rempli comptablement. On s'est fait peur, mais des fois je préfère gagner avec la manière et perdre le match. J'ai trouvé qu'on a manqué beaucoup d'énergie, on s'est pas beaucoup déplacé en défense, ce qui faisait notre force là. On a perdu tous les contacts en première mi-temps. Je nous ai trouvé manque d'énergie, manque de déplacement. Nos retours au jeu étaient de trop long. Je suis pas satisfait de la première mi-temps, et d'ailleurs je leur ai dit à la mi-temps, je peux pas satisfaire de cette première mi-temps là quand on est dans la situation comptable qu'on est aujourd'hui. Il faut qu'on fasse plus. Alors on va aussi remettre en cause certainement notre process de la journée. Peut-être que c'était une journée très longue. J'ai senti moi la journée longue. Alors si moi n'y a rien fait ce soir, j'ai senti que c'était long. Certainement que pour eux c'était long aussi. Donc à moi de remettre en cause le process de la journée certainement, et à eux de remettre en cause leur investissement sur la première mi-temps. Ce qui est intéressant par rapport au scénario du match, c'est à la vue de l'essai qu'on construit, le deuxième essai construit, c'est des choses qu'on avait travaillé, scénarisées à l'entraînement pour essayer de construire une victoire. Donc sur ces points-là, il y a des choses positives quand même, parce qu'on a quand même encore marqué deux fois ce soir, donc c'est satisfaisant par rapport à ça. Ils ont été sous pression. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est notre calme, notre maîtrise, le fait de scénariser des choses, nous a montré que en étant patient, bien sortir du camp, ça a été encore un petit souci ce soir, me semble-t-il. Je crois qu'on doit mieux sortir de notre camp, d'être plus patient dans le camp adverse encore. Mais ce qui est intéressant, c'est voilà, on a été tête froide sur des moments clés. Ce qui a été intéressant aussi, c'est que par rapport au scénario du match qu'on avait envisagé avec ses pénales touches et repartir sur les choix des joueurs, je trouvais que c'était en cohérence avec la semaine de travail.
Ça fait du bien commencer l'année comme ça. Et de toute façon, les groupes, les finisseurs, ils ont rien lâché, ils ont cherché jusqu'à la fin, et ça fait de bien vraiment cette victoire.
C'est ce que m'ont dit les coachs avant de rentrer, il faut garder la tête froide. Ils étaient à plus 3 quand je suis rentré. Quand le banc est rentré, donc il fallait réussir à trouver l'énergie pour aller gagner le match tout simplement. Et voilà, je pense que le groupe a réussi à aller chercher ça, et voilà, ça fait plaisir.
Tanguy nous disait toute la semaine que ça va passer les jeux d'avant dans la 22, et c'est ce qui est passé. La première mi-temps, on appelle chaque speak and go, on marque un essai, et après deuxième mi-temps, à la fin, on est sur avantage, et magnifique passe de Sikeli qui... Et Nico, il prend le ballon, il marque, il n'y a personne devant lui. Oui, ça fait du bien. Et c'est très bien.
Oui, il n'y a pas de hasard, on travaille. C'est des scénarios travaillés, donc ça prouve aussi qu'on est dans le vrai quand on travaille toute la semaine. Au fur et à mesure des matchs, au fur et à mesure des entraînements, le groupe se concentre et il devient homogène, tout simplement.
Christian, bien sûr, une équipe heureuse, puisqu'il y a la victoire. C'était sympa aussi, Christian, on a pu revoir Anthony Coletta, qui d'ailleurs paraissait très très motivé. Bien sûr, Anthony Coletta, qui a joué au SA15 longuement. C'est sympa de revoir des joueurs comme ça, avec d'autres maillots, revenir à Chanzy.
Tout à fait, c'est sympa de revoir des anciens joueurs, que ce soit Coletta... De toute façon, il y avait une belle ribambelle de joueurs du SA15 qui étaient partis du côté de Colomiers, que ce soit
Pablo Dimchef aussi.
Tout à fait. Et donc, c'est vrai que le fait que le SA15 finalement évolue depuis plusieurs saisons en Pro D2, ça permet de revoir toujours les mêmes équipes et puis de revoir les anciens joueurs du SA15 qui signent en Pro D2. Puis en plus, Coletta, ça a été le capitaine du SA15, et puis ça a été surtout un personnage marquant à Angoulême pendant plusieurs saisons, donc j'imagine que les supporters sont toujours ravis de le revoir. En plus, immédiatement, ça a l'air d'être quelqu'un de vraiment vraiment cool. Cette victoire à Colomiers, elle est très importante, d'une part parce que c'est la première de 2024, il fallait lancer cette année, la lancer par une victoire, donc c'est enfin fait, entre guillemets, et puis surtout, c'est le scénario, tu passes devant en fin de rencontre. Mentalement, déjà, ça signifie que l'équipe a des ressources, et puis ça signifie aussi que pratiquement les plus belles victoires à obtenir. Alors après, une constante à domicile, c'est que le SA15 regagne en chaîne. C'est vrai qu'on décriait un peu en début de saison que le SA15 prenait peu de points à domicile. Trois victoires de suite, ça commence à parler. Par contre, la constante, c'est que autant le SA15 a pris beaucoup de points défensifs, autant le SA15, je crois qu'ils n'ont pris aucun point au bonus offensif. Donc ça va être une constante toute la saison dans une Pro D2 qui est relativement serrée, où il y a quelques équipes décrochées devant, peut-être Rouen derrière, mais sinon pratiquement tous les autres matchs sont accrochés, donc ça va être une constante cette année. Les victoires vont être acquises avec peu d'écart, et il y aura pas forcément de très grandes embolées cette saison.
Loïc, je voudrais ton avis. On a entendu en conférence de presse Alexandre Ruiz parler du travail qui avait été effectué, et depuis son arrivée, finalement, l'accent avait été mis sur la défense, et qui a, depuis simplement quelques semaines, qu'ils se sont un petit peu axés sur l'attaque. Est-ce que cela peut être la réponse au fait que justement ils n'ont pas eu encore de bonus offensif, et surtout que les scores soient étriqués comme ça?
Je pense pas que ça soit parce qu'ils ont pas travaillé l'attaque qu'on n'ait pas de bonus offensif, tout simplement. Que c'est très compliqué cette saison d'avoir des bonus offensifs à part les premiers au classement où il y a Vannes, Provence, Béziers qui prennent pas mal de bonus offensifs.
Bon, il y a Rouen, on va le voir, non, qui en a pris
Clairement d'ailleurs. Il y en a qui en a pris un, mais après c'est très rare d'avoir un bonus offensif cette saison. Parce que tous les matchs sont très serrés. Alors là, le classement se dessine depuis mi-décembre maintenant. Mais rappelez-vous qu'avant c'était extrêmement serré. Par exemple, il y a quelques semaines de ça, encore début décembre, entre le 4e, 5e jusqu'au 13e, 14e, il y avait que 5-6 points d'écart, quoi. Donc dans le classement. Donc ça veut dire que les matchs sont serrés, que les équipes se valent entre elles. Donc c'est très compliqué quand c'est comme ça d'avoir des bonus offensifs. Alexandre Ruiz a voulu travailler la défense tout simplement parce que l'année dernière, même s'il n'était pas coach de cette équipe, qu'il était à Montpellier, il observait déjà le SA15. Il était déjà venu aussi dans les tribunes du SA15 l'année dernière, notamment je crois que c'était contre Mont-de-Marsan. Oui, il était là déjà. Il était déjà dans les tribunes, donc il a vu déjà les problématiques qu'il y avait dans cette équipe, et donc c'est ça qu'il fallait travailler. De toute façon, pour le maintien, à chaque fois qu'une équipe joue le maintien, qu'est-ce qu'on travaille d'abord? C'est la défense. Et puis un match ne se gagne pas sur l'attaque, un match se gagne sur la défense, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est-à-dire que si tu fais le moins de fautes possible en défense, c'est cette équipe-là qui gagne le match. Voilà, c'est ce que je dis. En général, c'est ce qui se passe. Bon, après, des fois, il y a des écarts énormes de 50 points, donc là, c'est l'attaque, mais voilà, la plupart du temps, c'est la défense qui
la passe par devant,
qui la remporte. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu cet appel de Laurent Cardona aussi pour aider cette équipe dans la discipline. Donc qui dit discipline dit défense. Donc oui, c'était vraiment axé là-dessus, mais pour moi ça me dérange pas du tout. Je préfère avoir 4 points à domicile et 1 point à l'extérieur que 5 points à domicile et prendre des branlées à l'extérieur.
Pour compléter sur ce que disait Loïc, c'est vrai que il arrive, il est nouveau au club, donc bah c'est comme une maison. Pour construire une maison, il faut d'abord bâtir les fondations.
C'est ça.
Et c'est vrai que dans un championnat, notamment dans le foot, on voit souvent que les meilleures défenses sont quand même assez haut placées. Hein. C'est la palissade, mais quand tu prends pas de but, tu fais au moins 0-0. Au rugby, c'est un peu différent, mais se reposer sur une bonne défense et sur une bonne discipline, déjà, c'est au moins 50% du travail de fait, voire même un peu plus. Parce qu'il y a forcément moins de points à marquer. Et donc, je pense que voilà, il a voulu vraiment se mettre de bonnes bases sur les 6 premiers mois, vraiment travailler la défense. Et puis, je pense qu'avec ses principes au niveau discipline, au niveau défense, qui commence à bien prendre, je pense que maintenant, il va commencer un peu à élargir son champ de vision. Mais c'est important, la défense, c'est important vraiment d'avoir des bonnes fondations, parce que s'il faut marquer 35 points pour gagner un match, forcément, ça arrivera forcément moins souvent que s'il faut seulement 15-20 points pour gagner un match, comme ça a été le cas ce week-end.
Tout à fait, messieurs. Eh bien, écoutez, il y avait également, bien sûr, d'autres matchs lors de cette journée de Pro D2. C'était d'ailleurs la 17e journée. Béziers recevait Provence Rugby, et c'est Provence Rugby qui s'est imposé. C'était une surprise à Béziers sur le score de 18-17. Brive s'impose face à Montauban 38-13. Comme on l'a vu, le SA15 s'impose face à Colomiers 20-16. Biarritz s'impose face à Valence-Romand 38-13. L'US Dax, grosse surprise, hein, surprise du jour, s'impose à Grenoble sur le score de 27-24. Autre surprise, Rouen s'impose et très largement face à Nevers 37-7. Bonus offensif à la clé. Agen s'impose encore difficilement face à Aurillac 23-21. Et enfin, Vannes poursuit sa tête au classement et s'impose face au Stade Montois 31-15. On va retrouver au classement toujours Vannes à la première place avec 55 points, deuxième Provence Rugby 53 points, troisième Béziers 50 points, quatrième Brive avec 45 points, le Stade Montois est cinquième avec 45 points également, sixième Nevers 43 points, septième Aurillac 39 points, 8e Agen 37 points, l'US Dax et Colomiers sont 9e avec 37 points également, 11e Grenoble 35 points, 12e Montauban 34 points. 13e, Valence-Romans, 30 points, à égalité avec Biarritz, qui est 14e, 30 points, à égalité également avec le SA15, qui est 15e, avec 30 points. On retrouve toujours, bien sûr, à la dernière place, la 16e, Rouen, avec 20 petits points. Messieurs, on va faire passer une petite page de pub, et puis on va revenir, on va essayer d'analyser un petit peu ce classement.
Le SA15 Magattitude, toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.
Nous sommes de retour dans le SA15 Mag Attitude. On a vu le classement, un classement qui voit le SA15 bizarrement, malgré sa victoire, perdre une place, hein, puisqu'il était quatrième avant ce match. Il s'impose, mais il est quinzième. Pourquoi ? Parce que Biarritz s'est imposé avec le bonus offensif et repasse devant le SA15. Messieurs, comment analyser ce classement en sachant que, bien sûr, Valence-Romans, on va les jouer à domicile, Biarritz aussi, on est à égalité de points avec eux.
Cette 15e place, je vais commencer. Cette 15e place, pour moi, c'est une photocopie instantanée. Hein. Pour moi, c'est presque anecdotique. Ce que je remarque surtout, c'est que le SA15 est quand même dans le bon wagon. Égalité avec Biarritz, égalité avec Valence. Et puis devant, il y a Montauban et Grenoble à portée de tir. Donc, pour moi, être 15e au sort de la 17e journée, c'est relativement anecdotique. Le plus important, c'est vraiment d'être dans le bon wagon, pas être décroché comme c'est le cas de Rouen. Rouen a gagné avec un bonus offensif, mais pour eux il va leur falloir enchaîner plusieurs victoires comme ça avait été le cas du SA15 en janvier, février dernier. Et puis par rapport à Angoulême, tu le disais, il y a des échéances qui arrivent. Le positif pour moi, c'est que le SA15 a quand même gagné 3 de ses 5 derniers matchs, lorsque Biarritz, Valence-Romans n'ont gagné qu'un match, et puis Montauban reste sur 3 défaites de suite. Donc c'est vrai que si on prend une photographie sur les 5 dernières journées au niveau de la dynamique, le SA15 est mieux que ces équipes-là. Donc voilà, pour moi, c'est une 15e place, due certainement, j'imagine, au goal average particulier avec Biarritz, puisque le SA15 a perdu là-bas. Mais le plus important, c'est vraiment d'être...
Et à Valence aussi.
Ouais, le plus important, c'est d'être dans le bon wagon, et c'est ce que le SA15 est actuellement.
Très bien, as-tu quelque chose à rajouter, Loïc, par rapport au classement ?
Avant de parler du classement, je vais parler quand même des résultats de cette journée que tu as donné.
Ouais, ouais.
Juste, je vais dire une chose, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais sur les 8 rencontres qu'il y a eu, en fait, il y en a 7 qui m'ont surpris.
Voilà, oui, complètement. Beaucoup de surprises.
Il y a que Van Mont-de-Marsan qui m'a moyennement surpris, parce que cette équipe de Mont-de-Marsan était un peu absente, je trouvais. Mais sinon, tous les autres résultats m'ont surpris. Bon, mais Provence, ça m'a surpris. J'ai regardé le match. Que Montauban s'écroule totalement à Brive. Je pense que Montauban va commencer à se poser des questions là-dessus.
Ça serait bien.
Valence à l'extérieur, essayer de faire des coups à chaque fois ou de s'accrocher. Là, c'est complètement écroulé, comme ils ont fait face à Nevers à l'extérieur aussi. Que Dax gagne à Grenoble, bon, même si Grenoble a eu un rouge, voilà, c'est quand même une performance d'aller gagner là-bas. Rouen gagne depuis je ne sais combien de semaines, ils n'ont pas gagné, donc bon, je suis quand même content pour eux, c'est bien pour eux, ça va les relancer, mais bon, j'espère qu'on va quand même rester devant, on a quand même 10 points d'écart. Angoulême, Colomiers, ouais, ça, ce qui m'a surpris, c'est quand même cette confiance des deux équipes pour aller jusqu'au bout comme ça, même si c'était pas un très beau match là-dessus, il y avait quand même un peu d'envie des deux côtés. Que Aurillac se batte autant à Agen, surtout qu'il perdait de 20 points à la mi-temps, se batte jusqu'à la dernière seconde, où Agen met la pénalité à la après non juste avant la sirène, parce qu'il reste
juste avant, ouais.
Après donc voilà, enfin bon, c'était quand même une journée assez spéciale par rapport aux autres qu'il y a eu avant. Et après, ben, pour parler de ce bas de classement, comme vous l'avez dit, en fait oui, Angoulême est 15e tout simplement, égalité avec Valence et Biarritz, parce que il y a eu ces deux défaites, donc on a qu'un seul point au classement entre ces trois équipes-là, et Biarritz et Valence en ont un peu plus que nous. Donc c'est juste pour ça, mais bon, il faut rappeler qu'on va recevoir ces deux équipes-là, donc c'est déjà bien pour nous. Et après, bon, ben, on va aller à Montauban la semaine prochaine, donc il faut continuer à les inquiéter. Peut-être que c'est le moment de les recevoir pour se venger du match aller où on a perdu avec un point de bonus défensif, même si on n'y était pas à ce début de match. Mais ouais, ça va être très important, hein, les prochaines journées. Aller à Montauban, recevoir Biarritz, aller à Dax. Mais là, il faut ramener au moins une victoire à l'extérieur et la victoire à domicile pour pour croire à ce maintien, parce que sinon ça va être très compliqué d'avoir ce maintien. Enfin, quand je parle maintien, c'est-à-dire à partir de la 14e place, je sais qu'à la 15e on peut peut-être se maintenir, mais ça va être très compliqué sinon d'avoir cette 14e place si on n'a pas deux victoires dans les trois prochains matchs. Alors bon, Montauban, c'est le dernier match avant une petite pause. Donc là, il faut envoyer l'artillerie lourde pour faire quelque chose là-bas, parce que on sent que toutes les équipes du bas de tableau sont motivées comme jamais pour ramener des victoires de partout et des points de partout pour se maintenir, parce que pour eux, il va rester 13 matchs. C'est pas la dernière ligne droite, mais c'est presque comme la dernière ligne droite.
Bien, écoutez, on a été complet sur cette journée de Pro D2. On va désormais passer, hein, bien sûr, aux résultats des jeunes.
Le SA15 Magattitude. SA15 Magattitude. Le résultat des jeunes.
Un résultat des jeunes, comme on le disait. Les espoirs revenaient sur le pré. Des espoirs qui, depuis le début de saison, accumulent malheureusement les défaites. Certaines très, très lourdes et d'autres un petit peu moins. Il y avait une petite éclaircie sur cette fin d'année. Une éclaircie qu'on a pu entrevoir également à Agen, puisque les espoirs ont perdu, certes, mais ils n'ont perdu que 34 à 15. Messieurs, je voudrais votre avis, finalement. Aller jouer à Agen, c'est compliqué. 34-15, c'est pas non plus une explosion au niveau du score. Y a-t-il du mieux dans cette équipe espoir du SA15?
Du mieux, c'est compliqué à dire. Du mieux quand il y a que des défaites là-dessus. Mais après, oui, c'est bien. Moi, je vais quand même dire que c'est bien, parce que il y a 34-15, mais 5 minutes avant la fin du match, il y avait que 27-15, il y avait que 12 points d'écart. Ouais. Donc c'est pas trop mal quand même, ça veut dire que ça tient bien, même s'il y avait 22-10 à la mi-temps aussi, hein. 22-10 à la mi-temps, c'est pas dramatique. Ce qui m'a embêté un peu plus, en fait, ils ont quand même marqué trois essais non transformés. Donc imaginez si les essais étaient transformé, ça aurait fait 21 points. 10
points en plus, ça fait 21.
Voilà, 21 points, et 21 points à 10 minutes de la fin, ou même à 5 minutes de la fin, 27-21, je pense pas que Agen, même aux espoirs, ils essayent de jouer l'essai. Donc c'est bien là-dessus. Maintenant, faut que les buteurs s'améliorent aussi sur le but. Alors je sais pas si les essais étaient en coin ou non. Moi j'ai juste entendu dire que il y avait quand même match entre entre ces deux équipes.
Ouais, c'est une bonne nouvelle.
Ouais, voilà. Le souci, c'était cette première période, et notamment où ils prennent pratiquement deux essais coup sur coup à la 15e et à la 20e minute, je crois que c'est ou à la 20e et 22e minute, enfin, c'est un truc comme ça, c'est ça qui a été un peu assassin, 12 points d'un coup. Mais sinon, il y avait match face à cette équipe d'Agen, qui d'habitude, Agen, je le sais parce que voilà, je suis originaire de là-bas, Agen d'habitude est une équipe forte en espoir. C'est quand même un centre de formation très très fort et tout ça, et cette année c'est pas...
Oui, ça joue la qualif tous les ans, quoi.
Voilà, c'est ça joue la qualif tous les ans, ouais. Et cette année c'est pas trop ça, donc il y avait moyen, ils ont tenté. Ça a pas marché, mais ça aurait pu. Mais bon, malheureusement, Angoulême reste avec 0 point dans ce classement espoir. Mais bon, on espère qu'à un moment donné, ça va apporter ses fruits.
Tout à fait. Ouais, Christian, toi, t'as un avis par rapport aux jeunes?
Il y a eu match contre Agen. Il y avait déjà eu match contre Clermont sur la dernière journée de 2023. C'est un groupe qui est parti de loin, comme m'avait dit l'entraîneur des espoirs Sébastien Zamou, et c'est vrai que c'est un groupe qui comble petit à petit son retard. Moi j'aurais bien aimé que le SA15 enchaîne après Clermont. Malheureusement, il y a eu cette trêve hivernale, finalement ça repart sur une défaite à Agen. Moi j'attends de voir à domicile maintenant le comportement des espoirs. À noter aussi que au niveau de la composition d'équipe, c'était une composition d'équipe qui avait évolué par rapport à Clermont, où il y avait quand même le retour de, enfin il y avait quand même le renfort de plusieurs éléments de qui ont déjà évolué en Pro D2, comme Gatebanks, comme Diakité ou comme Dubec, pour citer ces trois là. C'est des joueurs qui n'étaient pas présents à Agen. Je pense que les espoirs ont différents visages, un visage avec ses renforts, un visage sans ses renforts. En tout cas, c'est une équipe qui réduit les écarts. Voilà, on se rappelle en début de saison, à l'extérieur c'était souvent des scores hyper larges. Là, ça réduit. malheureusement la saison avance et l'écart se réduit, mais l'écart se réduit encore trop faiblement, j'ai envie de dire. Voilà, mais bon, j'espère pour ce groupe qui bosse chaque semaine, pour l'éducateur aussi, que c'est une équipe qui va acquérir sa victoire le plus rapidement possible. Et puis derrière, voilà, dans le sport, on sait tous qu'une victoire peut déclencher des choses, moralement, mentalement, même chez les adversaires. Voilà, on espère que le C15 pourra acquérir cette victoire le plus rapidement possible.
Cette victoire, je pense pas qu'elle soit au prochain match, parce que le prochain match sera à domicile.
À La Rochelle, le 4.
Voilà, à La Rochelle, La Rochelle qui est la meilleure attaque et la meilleure défense de cette poule et qui est invaincue pour le moment. Donc, je pense que ça va être compliqué. Mais par contre, le match d'après, ça sera face à Aurillac, Et là, il y a peut-être quelque chose à faire parce que Aurillac a ce week-end a gagné son match et c'est leur première victoire de la saison. Donc, ouais. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à faire sur ce match-là et pourquoi pas ramener une première victoire, ce qui serait beau pour Angoulême, ramener une première victoire en plus à l'extérieur, quoi.
Ouais, puis ce qui redonnerait un espoir de maintien, bien sûr. Dans ce groupe élite, donc effectivement, hein, les espoirs recevront le Stade Rochelais. Ce sera le 4 février pour le compte de la 7e journée du championnat. Alors, on ne sait pas encore si ce sera au Stade des Rochers ou au Stade Chanzy. A priori, je pense que ce sera au Rocher, mais voilà, on vous donnera de plus en plus d'informations, peut-être lundi prochain d'ailleurs.
Le SA15, Magattitude, le prochain match.
Il nous reste 5 minutes environ pour parler du prochain match qui pointe le bout de son nez. Ce sera très rapide puisque c'est dès vendredi. Ce sera à 19h30 et ce sera à Montauban dans la cuvette de Sapiac. C'est toujours difficile de s'imposer, mais Montauban n'est pas sur une bonne passe. Messieurs, n'y a-t-il pas un coup à faire? Le coup du SA15 qui irait s'imposer à Montauban serait le bienvenu, n'est-ce pas?
Ouais, ça serait le bienvenu, ça serait une revanche par rapport au match aller où on perd à domicile et tout le monde voyait un peu cette victoire par rapport à ce début de saison tonitruant qu'on avait fait à domicile. Déjà, un, ça serait bien. Deux, ça ferait revenir cette équipe d'Angoulême à égalité ou pratiquement à égalité avec Montauban. Donc, ça mettrait une équipe de plus dans cet objectif d'avoir ce maintien-là. Donc, quatre équipes seraient quand même assez énormes parce que Montauban va avoir bientôt un calendrier pas à leur portée, mais à gros enjeux, on va dire. Quand je regarde le calendrier de Montauban, je peux le dire, les 7 prochaines journées, je pense qu'elles sont toutes importantes, sauf une où ils jouent contre un haut tableau. Mais bon, voilà, c'est Montauban face à Angoulême. Et après, il y a cette pause. Et là, c'est Montauban face à Béziers. Donc, c'est là que ça va être compliqué pour eux. Mais ensuite, c'est aller à Valence, aller à Rouen, recevoir Agen, aller à Biarritz et recevoir Dax. C'est clair qu'ils vont vouloir prendre des points là-dessus. Donc, avant qu'ils soient en confiance avec ces matchs-là, ouais, peut-être que ça serait bien de faire quelque chose pour leur mettre la tête au fond du seau. Mais bon, c'est facile à dire, c'est difficile à faire. Je pense que tous les joueurs et le staff d'Angoulême ont la même idée que moi là-dessus. C'est faire quelque chose là-bas. Ils vont tout faire pour continuer à avoir cette confiance et ces victoires d'affilée avec le SA15, ce qui serait top pour tout le monde et on serait tous très contents.
Qu'en penses-tu, toi, Christian? Montauban, qui ont actuellement au classement 34 points, le SA15 en a 30 en cas de victoire. Bien sûr, tu reviens à hauteur de Montauban, ça serait une bonne idée quand même de s'imposer là-bas.
Oui, comme le disait Loïc, c'est vrai que de faire un résultat à Montauban, ça remettrait une équipe supplémentaire dans la course au maintien. Je pense que Montauban, c'est une équipe qui regarde plus derrière que devant, parce qu'ils sont quand même bien décrochés par rapport au top 3, mais aussi au top 6. Hein, donc, je pense que c'est une équipe qui regarde derrière elle et qui, après une saison dernière assez traumatisante, veut assurer son maintien le plus rapidement possible. Sauf que pour eux, la problématique, c'est que sur 2024, c'est que des défaites, trois défaites de suite. Donc voilà, le SA15 a enclenché la première la semaine dernière, en espérant que Montauban ne l'enclenche pas la semaine prochaine. Il y a des exploits assez inspirants pour le SA15, quand on voit que Dax va gagner à Grenoble, quand on voit même que Provence va gagner à Béziers, qui réalise quand même une super saison. C'est inspirant, et puis surtout, quoi de mieux que de s'inspirer de soi-même, hein. Faut rappeler que le SA15 s'est imposé à Brive.
Ouais.
Et qu'il y avait quand même des bons matchs, hein. Donc, voilà, Montauban, ça va être un match un match intéressant, forcément une revanche par rapport au match aller, mais surtout pour moi un match où le SAC15 devra rester le plus longtemps possible dans le match. Et puis si jamais dans le dernier quart d'heure il y a match, il y a un petit écart, bah peut-être que Montauban sera dans le dur moralement, à douter, avec une spirale qui est pas forcément très bonne en ce moment. Et puis peut-être que le SAC15 peut tirer son épingle du jeu.
Eh bien écoutez, avant de nous quitter, je voudrais un petit prono de votre part, l'un et l'autre. Loïc, peut-être d'abord.
Bah écoute, je vais me mouiller avec, ouais. Avec une victoire d'Angoulême de 2 points.
Ah parfait. Christian.
Bah moi je vois marquer le score Béziers Provence Rugby sur la première ligne de la page que je consulte, 17-18, donc je veux dire 17-18 aussi.
Donc 17-18, victoire du SA15 pour voilà, tous les deux. Hein, allez, moi je vais mettre un petit bémol, allez, je vais mettre un petit match nul, je sais pas pourquoi. Je vois un match nul entre Montauban et le SA15. Ce serait déjà pas mal, hein, 2 points. Même si bien sûr, comme vous, j'espère une victoire. Eh bien écoutez, merci messieurs, cette émission se termine. Bien entendu, nous vous donnons rendez-vous, même endroit, même heure, lundi prochain. En attendant, on vous souhaite une très bonne semaine. On croise les doigts, hein, bien sûr, pour que le SA15 s'impose à Montauban. On vous comptera tout ça la semaine prochaine. Salut à tous.
Le SA15 Mag Attitude. Toute l'actualité du SA15 avec Fred, Christian et Loïc sur Attitude.